Ce matin, on va continuer notre enseignement sur comment être la tête, où tu seras la tête sur l'esprit d'excellence. Cet enseignement est donné dans le but d'aider les chrétiens à comprendre que ce que dit la Bible n'est pas réservé à une catégorie de personnes, mais est réservé à tous ceux qui croient en Christ. Et le dimanche passé, nous avons commencé à attaquer le deuxième principe qui est le principe de la loyauté. Je ne vais pas vraiment revenir sur cela, mais j'ai dit que la loyauté, c'est le fait de se soumettre ou d'être attaché aux lois et à tout ce qui est régulier, à tout ce qui est légal. Et dans la loyauté, j'ai expliqué que le chef de l'organisation, le chef d'une structure, le directeur d'une organisation, d'une société, un père de famille, doit lui-même être loyal. Loyal à l'égard de tout. Si le pasteur lui-même est loyal dans ses rapports avec Dieu, et que le pasteur lui-même est loyal avec ses collaborateurs et ceux qui sont dans l'église, les fidèles seront loyaux à son égard. Et j'ai dit que la loyauté engendre l'expansion et la croissance. La loyauté engendre un travail sérieux et engendre le respect. J'explique que aussi une personne qui est loyale à un maître, la Bible déclare que nul ne peut servir deux maîtres. Soit il aimera un et haïra l'autre. Et j'ai aussi dit que la loyauté rejette l'orgueil, l'esprit de suffisance. Et la loyauté évite d'avoir à répliquer, à manifester de l'impolitesse, du respect, le refus de se soumettre et tout cela. Et que la loyauté également nous amène à éviter la familiarité. Alors ces deux derniers points qui n'ont pas été bien traités, ce matin je vais les approfondir un tout petit peu en attaquant la partie qui est liée à la déloyauté. Qu'est-ce que la déloyauté peut entraîner? Parce que je le rappelle encore, on ne peut pas être élevé, parce qu'il faut que je situe le contexte de l'enseignement. On ne peut pas être la tête, on ne peut pas être toujours en haut, si soi-même on n'a pas appris à être loyal, tout simplement. Et je vais expliquer comment est-ce que le fait d'être déloyal peut entraîner notre perte. Et l'enseignement est utile pour même les familles, mais aussi pour ceux qui ont géré une société, sont établis sur des personnes. Parce que si une entreprise, soit une clinique ou une boîte quelconque, une grande plantation ou je ne sais pas quoi, doit progresser, doit avoir des bons résultats, il faut avoir des collaborateurs loyaux. Est-ce que je me trompe? S'ils ne sont pas loyaux, s'ils n'accomplissent pas leurs tâches, ta société ne pourra pas atteindre son objectif, parce que même si on est très intelligent, on ne peut pas tout faire. Donc si l'enseignement sur la loyauté est bien compris et maîtrisé, on peut avoir du progrès dans tous les domaines de nos vies et on peut avoir des bons résultats. C'est aussi bien de voir l'autre aspect, que le côté négatif, plutôt que l'envers ou le contraire de la loyauté, c'est la déloyauté. Et qu'est-ce que la déloyauté peut entraîner? Une personne qui est déloyale, pourquoi elle ne peut pas espérer être la tête? On peut prier, Seigneur, aide-moi, bénis-moi, élève-moi. Mais si on n'a pas appris à être loyal, on ne peut pas être la tête. Et ce matin, c'est ce qu'on va aborder. Ce que la déloyauté peut entraîner comme conséquence. Mais d'abord, expliquer comment la déloyauté se manifeste. Et pourquoi cette personne qui est déloyale ne peut pas être la tête. Même si elle a des compétences avérées, elle a des compétences qui sont établies, elle ne peut pas arriver au niveau où elle souhaiterait arriver simplement parce qu'elle est déloyale. On va voir les conséquences tout à l'heure assez rapidement. La déloyauté se manifeste d'abord à travers l'indiscipline. L'indiscipline constitue l'une des caractéristiques d'une société qui n'avance pas. Vous m'excuserez de parler des occidentaux, mais on n'a pas le choix. Et même les Chinois et les Asiatiques ont commencé à s'inspirer d'eux. La discipline est capitale. Une personne qui entend être la tête doit apprendre à être disciplinée et donc, au contraire, dans l'autre sens, rejeter toute forme d'indiscipline. La discipline voudrait qu'on soit à l'heure, par exemple. Ça, c'est le problème des Africains. C'est pas parce qu'on n'est pas loyaux en tant qu'Africains, mais on a une société qui est un peu, comment dites-là, qui est basée sur beaucoup de familiarité, beaucoup d'amusement. Et puis, comme on n'a pas pu avoir des montres, au village, on n'a pas de montres, on regarde l'ombre. Donc, on n'a pas pu être rigoureux. On va chez quelqu'un sans le prévenir. S'il est en train de manger, de toute façon, tu manges, par exemple. Bon, c'est bon pour une société africaine traditionnelle. Mais si on veut vraiment progresser, on doit apprendre à être discipliné. On ne prend pas le temps d'avoir tous ces aspects, mais j'insiste sur cet aspect-là. Pour être la tête, on a besoin d'être absolument discipliné. Et ça nous manque, la discipline. En toute chose, la discipline compte. Quand on passe le bac, on vous dit le prof de mathématiques ou de philosophie commence à 7h. Si tu viens à 7h30, qu'est-ce qui va se passer? On ne va même pas te permettre d'entrer. Tu as déjà échoué. Tu attends, on dit, bon, attends, la prochaine épreuve. Donc, la discipline nous permet de pouvoir être la tête. La discipline, malheureusement, en Afrique, on n'est pas très discipliné. On prend tout en amusement. Regardez, quand vous avez rendu avec quelqu'un de certains pays, si vous venez, parce qu'en fait, si vous venez en retard de 5 minutes ou de 10 minutes, il considère que vous lui manquez du respect. Exactement comme ça. Il prend ça comme étant un manque de respect. Et donc, si vous lui manquez du respect, lui, il ne vous respectera pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il attend 5 minutes. Si vous ne venez pas, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Parce qu'il estime que vous ne le respectez pas. Il s'en va. Donc, il est bien que nous apprenons à développer ces qualités qui sont d'autres morales, mais que ce sont d'autres spirituelles. On ne peut pas être la tête. Même si nous prions seulement et qu'on n'a pas prêt à être discipliné, on ne peut pas être la tête. Parce que Dieu ne peut pas se contredire lui-même. Mais c'est juste quelques lignes que je donne, parce qu'on ne peut pas entrer dans les profondeurs. Apprenons, n'est-ce pas, les principes liés à la discipline. L'apôtre Paul dit, je traite mon corps durement de peur d'être rejeté moi-même après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul enseigne ici la règle de la discipline. Avoir un programme cohérent, savoir ce qu'on veut faire le jour. Avoir un programme du mois ou de l'année. Ou en tout cas, avoir un agenda plus ou moins précis qu'on tente de respecter. Par exemple, on peut fixer 2 ou 3 rendez-vous au maximum dans la journée. Parce que si on en fixe 10, il est impossible d'honorer 10 rendez-vous à Abidjan, qui est une ville de 5 millions d'habitants. L'embouteillage permettra que tu... Donc, avoir 1 ou 2 rendez-vous, 1 ou 2 maximum le matin et puis 1 l'après-midi. Mais faites l'effort de cela. C'est juste des pistes que je donne pour montrer que dans la loyauté, il y a aussi l'idée d'être vraiment discipliné. Et dans l'idée de discipline, il y a aussi le fait d'apprendre à ne pas trop parler. Une personne qui veut être la tête et qui est disciplinée ne parle pas trop. Ce n'est pas tout ce qu'on a vu qu'on dit. Ce n'est pas tout ce qu'on a entendu qu'on dit. Et je vais vous montrer comment est-ce que dans la mauvaise appréciation de la discipline, qui est un aspect de la déloyauté, on peut être écarté et on peut avoir des problèmes. Prenez vos Bibles dans Genèse chapitre 9, verset 20. Genèse chapitre 9, verset 20. Je vais montrer comment un aspect du fait qu'on soit indiscipliné et qu'on bavarde beaucoup a créé un problème à toute une génération, à un peuple.
Genèse, le chapitre 20.
Non, chapitre 9. Chapitre
9 plutôt, verset 20. Mm-hmm. Noé se mit à cultiver le sol et planta une vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, fit la nudité de son père et le raconta au dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent tous 2 sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit alors, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves.
Amen, c'est tout, hein? Ok. Donc vous remarquez bien que lui, en fait, on ne peut pas dire que fondamentalement, ce fils était mauvais. Il manquait de discipline. Il a vu son père nu. Il a dit, tu as vu ça? Papa même il déconne, hein? Comment il peut me boire et puis il fait des trucs comme ça? Ça lui a coûté très cher. Son père se lève et se met à maudire. Mais écoutez-moi très bien. Là, c'est une parenthèse que je fais. Parce que ce passage a été mal exploité et a justifié l'apartheid en Afrique du Sud. Et a justifié la soi-disant supériorité des blancs sur les noirs. C'est faux. Lisez bien ici. C'est pas Cam qui a été maudit, c'est Canaan qui a été maudit. Pas mon message, hein. C'est pas mon message, c'est juste une parenthèse. Dieu n'a pas maudit Cam. Et Noé n'a pas maudit Cam parce que Noé avait déjà béni Cam. Dans la Bible, quand tu es béni, on ne peut plus te maudire. C'est ce qu'on voit dans Nombre chapitre 21. Dieu dit, j'ai béni Israël, je ne peux plus le maudire. Cam avait déjà été béni. Donc c'est son fils Canaan qui va être maudit et qui va être l'esclave de ses frères. Alors pourquoi on pensait que les Camides ou il s'agissait des Africains? Lisez bien la parole de Dieu. Ça c'est ma compréhension. Je fais une grosse parenthèse, hein. Ça n'a pas rien à voir avec mon message. Une grosse parenthèse. Quand Dieu plus tard va appeler Abraham, il va lui promettre quel pays? Il va lui promettre Canaan. Quand Israël va quitter l'Égypte, ils vont habiter quel pays? Qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse? Il faut chasser les Cananéens et les exterminer. La malédiction était une domination. La possession du territoire des Cananéens et le fait de les chasser. C'est ça. C'est ça qu'il s'agit ici. Ça n'a rien à voir avec le fait que ce sont des Noirs qui ont été maudits. C'est faux. C'est complètement faux. En tout cas, c'est pas biblique. Mais c'est pas mon message. C'est mieux qu'on fait sur les Noirs et sur leur place dans l'histoire, dans la Bible des Africains. Ça, c'est pas du tout vrai. Maintenant, l'aspect que je vois ici, c'est l'indiscipline et le fait de trop parler. Ou d'exposer la nudité de son autorité. C'est l'expression de la déloyauté. Cet homme-là, je veux dire, Canaan est devenu esclave. Est-ce que lui pouvait être la tête? Il ne peut pas être la tête, puisque le fait que la malédiction était prononcée sur lui, il était condamné à être la queue, à être l'esclave des esclaves de ses frères. Donc, comprenez-moi très bien. Si une personne n'a pas appris à être loyale, donc elle est déloyale, elle peut être exclue. Et dans ce sous-thème que j'aborde un peu sur la loyauté et la déloyauté, parce que c'est assez proche, c'est comme si on parle de la fidélité, on oublie de dire les conséquences de l'infidélité. C'est la même chose. Le fait d'exposer la nudité de quelqu'un signifie manquer de respect ou exposer ses fautes. Je dis pas ça pour vous maintenir dans le silence, mais n'exposez jamais les fautes, les problèmes de votre autorité. Je dis quelque chose qui peut être assez pratique. Par exemple, une femme qui est mariée, qui est dans son foyer, reconnaît son mari comme étant le chef de la famille. Elle n'a pas le droit d'exposer la nudité de son mari. Le mari n'a pas le droit d'exposer la nudité de sa femme. Quand il parle de nudité, je ne parle pas seulement de l'aspect physique. Hein. Comprenez-moi très bien. Hein. C'est tous les problèmes de la maison, entre les 4 murs. Tu sors, tu deviens RFI pour ta femme ou RFI pour ton mari. en racontant ses défauts, même votre intimité, vous exposez ça. Tu dis, hey, le gars, il est méchant. Mais le monsieur qui prêche, c'est comme ça il est. Si quelqu'un fait ça, c'est sûr et certain. Il peut prier, gêner. Vous voyez, il y a des choses pour lesquelles on ne prie même pas, mais c'est même pas la peine de prier. En exposant la nudité d'une autorité, nous étions une autorité. Tu t'exposes à la conséquence, c'est arrivé à qui? À Canaan, tout simplement. Donc, je dis cela pour qu'on fasse attention à la manière dont nous parlons. C'est vrai entre hommes et femmes. C'est vrai dans le rapport entre les enfants et leur père. Un enfant qui manque de respect à son père ou à sa mère, j'ai peur, je tremble. Il n'a pas d'avenir. La seule chose qui lui reste, c'est que sa mère ou son père supplie Dieu. Enfin, tu vois, il va atténuer quoi? Mais ça ne sortira pas. Il ne faut jamais toucher aux gloires et toucher aux autorités. C'est vrai dans les rapports aussi entre un fidèle et puis un pasteur. Je ne dis pas ça pour que vous puissiez me craindre, non. Moi, je rends grâce à Dieu, j'ai une vie transparente, je n'ai pas une double vie. Si j'avais une double vie, vous allez le savoir. Je n'ai pas une double vie. Mais de manière générale, n'exposez jamais une autorité parce que vous livrez à la mort, certainement à la mort. Il n'y a rien à faire. Il y a plusieurs types de morts. Il y a la mort spirituelle, il y a aussi la mort physique, la mort financière. Donc, je donne cela pour qu'on puisse vraiment faire attention à la manière dont nous parlons. Nous parlons de ceux qui sont établis sur nous, que ce soit dans le service, même dans le domaine privé. On peut dire, oui, bon, le patron, il fait un peu ceci, dans le sens positif, mais pas dans le sens de pouvoir, n'est-ce pas, prononcer des paroles qui peuvent toucher à ça. J'espère que vous me comprenez, hein. Voilà. Pas dans le sens de dénigrer systématiquement. Il y a des personnes qui dénigrent systématiquement. Ils ne voient jamais ce qui est bien. Ils ne voient que ce qui est mauvais. Ils dénigrent, ils insultent. Leur propre père aussi, ou leur propre mère, ou c'est le contraire qui se produit. Et quand ça se passe ainsi, on peut avoir les conséquences des fils, ou du fils, des petits-fils de Noé. Mais que Dieu nous aide, et cela ne nous arrivera pas, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans l'indiscipline toujours, et qui peut être aussi une conséquence de la déloyauté, ou bien une manifestation de la déloyauté. Prends ta Bible, Joseph, et prenons Bible maintenant dans... Le temps ne suffira pas, mais on va se débrouiller avec. Il faut prendre ta Bible dans Nombre chapitre 16. Comment se manifeste l'indiscipline ou la déloyauté? Et quelles peuvent en être les conséquences? J'ai tout à l'heure parlé de le fait d'exposer la nudité de son mari ou de sa femme ou de son supérieur hiérarchique dans une entreprise ou du pasteur ou d'autres frères ou d'autres soeurs qui ont une autorité ou qui ont une responsabilité quelconque. Ce sont les choses qui nous exposent, non pas être à la tête, mais plutôt être la queue. Maintenant, tu vas lire, c'est un passage qui est un peu long. On va le lire attentivement, c'est sûr. L'esprit de rébellion et de révolte. Et pourquoi est-ce qu'une personne qui manifeste l'esprit de rébellion ne peut pas être la tête? Nombre chapitre 16. Oui, vas-y, on va lire quelques-uns.
Nombre chapitre 16. Corée, à partir du verset 1.
Oui.
Corée, fils de Hiséa, fils de Kehat, fils de Lévi, avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab et On, fils de Pélète, tous trois fils de Ruben, prirent l'initiative de se soulever contre Moïse avec 250 hommes des Israélites, des princes de la communauté, de ceux que l'on convoquait aux réunions, et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblaient contre Moïse et contre Aaron et leur dit, « C'en est assez, car toute la communauté, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ?»
Amen. On va s'arrêter là. Je vais lire à partir du verset 12.
Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab, mais il dit, « Nous ne monterons pas. »
Écoutez-moi bien. Hein. Moïse, le leader, appelle ses collaborateurs et ils disent quoi?
Nous ne monterons pas.
Il refuse de venir. Continue.
Est-ce trop peu que tu nous aies fait monter d'un pays découlant le lait et le miel afin de nous faire mourir au désert? Vas-tu encore t'imposer à nous? Ce n'est pas dans un pays découlant de lait et de miel que tu nous as fait entrer. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donné en héritage. Imagines-tu que ces gens sont aveugles? Nous ne monterons pas.
Non, c'est bon comme ça. Ouais, voici, ça c'est un rebelle, c'est pas comment on peut l'appeler quoi. Voilà l'histoire, parce que comme c'est loin et qu'il est prêt, j'en ai arrêté dans 10 minutes, j'ai oublié d'aller de résumer. Ça c'est une manifestation de la déloyauté qui expose à quelque chose. Non, je m'excuse, mais je veux quand même que tu lises un peu les conséquences pour qu'on aille plus vite. Regarde le verset, lis rapidement le verset 28, lis ça rapidement pour qu'on suive d'un seul trait. Lis le verset 28.
Moïse dit... À ceci, vous reconnaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour accomplir toutes ses œuvres et que je n'agis pas de moi-même.
Verset 29, 30.
Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si le sol ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous reconnaîtrez alors que ces gens ont outragé l'Éternel.
31 et 32.
Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, le sol qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leur maison, avec tous les gens que Corée et tout leur bien.
Verset 35.
Un feu sortit de près de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui présentaient le parfum.
Waouh, on ne peut pas dire Amen comme ça. C'est vraiment un terrible passage. Voici un peu ce que peuvent ce que peut entraîner la déloyauté dans ces degrés tout à fait divers. Voici des personnes qui, à un moment donné, quittaient. Et quels sont ceux qui ont manifesté cette déloyauté ou cette indiscipline? C'était les leaders. C'était les fils de Lévi. Les filles de Lévi. Les 250, c'était les vaillants, les plus proches collaborateurs. Généralement, ce sont les collaborateurs les plus proches qui font quoi? Qui trahissent tout.
Toujours.
Parce que c'est une personne que tu soupçons comme étant ton ennemi. Tu ne vas pas avoir des rapports directs avec elle. Cet enseignement touche à tous les aspects. C'est lié à l'église. C'est lié au travail qu'on fait enfin, en ville. Mais à tous les niveaux. Je ne dis pas ça pour que vous ayez peur de vos collaborateurs. Mais n'ayez pas une confiance absolument aveugle en quelqu'un. C'est aussi en même temps nous enseigner la vigilance. Que ceux qui trahissent et qui souvent se soulèvent, c'est souvent les lévites les plus proches collaborateurs. Et ceux qui sont ceux qui tu comptes. Hein, dans une entreprise, généralement, c'est ceux que si on compte. Et quand il y a un petit changement, c'est souvent le directeur général adjoint qui va aller traiter et trahir le directeur général. Il va dire tout ce qu'il a fait. Parce qu'il fait quoi? Il cherche à prendre sa place. Mais un vigile, il ne va pas prendre la place du directeur général. Non, il va chercher plutôt à trahir le chef vigile, son chef. Vous prenez sa place. Parce que c'est dessus comme ça. Alors, il est important de comprendre que si on n'a pas appris la loyauté, parce que nous sommes à l'église aussi pour qu'on soit enseigné dans les principes, dans les valeurs. Ce que je vais entrer dans le comme enseignement, c'est un enseignement lié à la valeur. Un chrétien représente des valeurs. Il y a l'aspect prière, l'aspect jeûne, mais aussi l'aspect valeur, l'aspect de comportement. Comment, en tant qu'enfant du Dieu, on se comporte? Nous devons être des hommes et des femmes loyaux à tout point de vue. Et si on manifeste la déloyauté, on ne peut pas espérer que Dieu nous élève. Ce n'est pas possible. Voici des personnes qui ont été déloyaux. Qu'est-ce qui va se passer? 1. La trop grande familiarité aboutit souvent à la déloyauté. Ils étaient familiers à Moïse. C'était ses proches collaborateurs. Bien sûr, on peut être camarade, on peut être ami. Mais quand il s'agit du travail, quand il s'agit du ministère, ça peut être ton mari qui prêche. Tant que c'est ton mari, tant qu'il a la maison de ton mari. Mais s'il prend la casquette de pasteur ou de responsable de diacre, ou d'ancien, ou de chantre, attention, il faut le respecter. Vous pouvez être ami dans la société, mais tant que vous vous trouvez dans votre entreprise, au travail, il devient ton patron. Et quand il parle, tu te soumets à ce qu'il dit. Absolument. Et on constate simplement ici que la trop grande familiarité entraîne souvent la déloyauté. Le manque de respect, il t'interpelle devant tout le monde. Il dit, hey, Gabriel, toi tu dis quoi même? Ton patron que tu appelles Gabriel, devant les autres collaborateurs. Mais ça arrive souvent quand c'est les chrétiens, c'est encore pire. Il dit, hey, Marceline. Il appelle sa patronne Marceline devant les autres. Mais on est à l'église. Moi, mais à l'église, je suis intercesseur. Je suis au-dessus de toi. Toi ici, tu veux montrer quoi? Non, on ne peut pas avoir, il ne faut pas confondre la vie spirituelle avec la vie professionnelle. Les choses doivent être tout à fait partagées. Mais je n'ai pas envie de m'éloigner de mon message. Voici comment un soulèvement est né. La contestation de l'autorité est née de là. La contestation de l'autorité est la manifestation de la déloyauté, de l'indiscipline. On le voit au verset 12, au verset 13. Moïse appelle ses collaborateurs. Et qu'est-ce qu'ils disent? Nous ne viendrons pas. En principe, quand ton patron ou bien ton autorité t'appelle, qu'est-ce que tu fais? On dit toute activité cessante. Toute activité cessante. Tu laisses ce que tu fais. On voit les hommes avec la femme samaritaine. Elle a rencontré le Messie. Elle cherchait le salut, malgré sa vie désordonnée. Quand elle a rencontré le Messie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a déposé sa cuche. Toute activité cessante. Elle était venue puiser de l'eau. Mais elle a rencontré l'eau de vie. L'eau éternelle. Elle a laissé son canari ou ce qu'elle portait. Elle est partie au village pour dire, voici celui qui m'a donné et qui m'a transmis le message de vie. Est-ce que ce n'est pas le Christ? En fait, ça se passe comme ça. Toute activité cessante. Nous sommes enfants de Dieu. On doit aussi apprendre les valeurs. Parce que si je dis que Dieu va te bénir, tu vas prospérer, mais que je n'enseigne pas la discipline, j'aurais été un faux pasteur et un mauvais pasteur qui n'aura pas enseigné à ses fidèles la discipline et le respect de l'autorité. Est-ce que tu peux dire amen avec moi? C'est extrêmement important. Toute activité cessante. D'attendre dit, nous ne viendrons pas. Toi, tu es qui? Est-ce que toi, Moïse, tu es le seul par qui Dieu parle pour parler aux autres? Ce que tu prêches là-bas, il peut prêcher ça? Ah, tu n'as pas peur? Ça arrive souvent entre nous. Les jeunes pasteurs ont tendance à mépriser les anciens. Ils disent, oui, les vieux, ils n'ont plus d'onction. Je vous assure, quand j'entends ça, j'ai peur, je tremble quoi. Il ne faut jamais toucher aux gloires. Jamais toucher aux gloires. Mais le temps manque, on ne peut pas aller de l'avant. Le refus, ou plutôt, quatrième aspect, le fait d'avoir son propre agenda. Nous n'irons pas parce qu'on a autre chose à faire. Quand quelqu'un qui est ton autorité spirituelle t'appelle à activité cessante, tu ne dois pas avoir ton propre agenda. Ton agenda doit être celui que t'impose ou te donne ton supérieur hiérarchique. Tu peux lui faire des propositions et des suggestions, mais jamais t'imposer ou imposer ton agenda. Dans une société, si un directeur dit à son collaborateur, demain à 15h, on a une réunion, On va dire, ah patron, mais comment? Demain à 15h, moi j'ai un autre rendez-vous avec tel directeur. Ah? Tu as un rendez-vous en dehors de ça, mon autorisation. S'il est rancunier, il va rien dire. S'il est rancunier, les rancuniers ne parlent jamais. Un rancunier ne parle pas. Il va rien dire. Il va te laisser aller à ton rendez-vous. Il va même te féliciter. Il va dire, ah, tu as fait le rendez-vous, a eu lieu. Comment ça s'est passé? Si tu es un homme intelligent, commence à préparer tes bagages pour aller chez notre société. Parce qu'un patron à qui tu n'as pas. Enfin, ou à qui tu as eu une manifestation, à l'égard de qui tu as eu une manifestation bizarre, et qui te dit, ah bon, tu peux aller à ton rendez-vous, et qui t'appelle pour dire, fais-moi le compte de rendu de ton rendez-vous, mon frère. Commence à prier pour que Dieu lui fasse, tu fasses grâce. Fait, ton envoi est clair. Il va te chasser. Il va dire, voici quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. J'enseigne ça pourquoi? Mais parce que beaucoup de chrétiens ont tellement de problèmes en entreprise. Est-ce que je me trompe? Les chrétiens ont tellement de problèmes en entreprise. Il dit, le patron, c'est un rosicrucien. Ah, mais c'est ton patron. S'il te dit, allons à la rose croix ensemble, là, il quitte le domaine de son travail. Mais si c'est dans son travail et que tu as un rendez-vous avec le pasteur Gadi Abraham à 15h, s'il t'appelle, tu es présent à 15h. Parce que c'est dans le cadre du travail. Si on veut que Dieu nous élève, apprenons à ne pas avoir nos propres agendas, que notre agenda soit soumis à l'agenda du directeur général, parce que c'est lui qui a le dernier mot. Je suis en train d'enseigner sur comment être la tête. C'est à travers le respect de tous ces principes que Dieu te propulse, qui nous élève, et c'est extrêmement important. Cinquième chose que je vais aborder avant de m'arrêter là. On voit que Dathan et les autres vont commencer à mépriser le pays que Dieu leur a donné. Je dis, mais tiens, c'est quel pays ça? On a quitté un pays où le leur, le mien, l'Égypte. Et toi, tu viens ici dans un désert, on ne mange que quoi? On n'a pas dit ça, mais ce qu'on peut penser, on ne mange que la caille et les mannes. Dieu dit très bien. Ouais, le mépris du patron, le mépris d'autorité spirituelle, le mépris des propos qu'on nous adresse, effectivement, peuvent également être source d'exclusion. Et qu'est-ce qui va se passer finalement pour conclure au verset 28? Moïse va mettre son autorité en jeu. Oh, je vais quand même parler parce que c'est venu dans ma tête. Il y a quelques hommes de Dieu qui s'amusent à faire des courriers, des lettres et publient dans les journaux les histoires qui concernent l'église, qui critiquent les pasteurs dans les journaux, qui dénoncent les pères dans les journaux. Ah, j'ai peur. Il faut jamais faire ça. Jamais faire ça. Si cet homme met son autorité en jeu, Moïse, au verset 28, a mis son autorité en jeu. Il dit, si ces hommes meurent de manière naturelle, c'est que Dieu ne m'a pas envoyé. Vous voyez, quand c'est le père ou la mère physique, ou le père ou le père, la mère spirituelle, commence à parler ainsi, généralement, à ce niveau-là, au plan spirituel, il n'y a pas de rémission. On a touché à quelque chose de très loin. Moïse dit que si ces hommes meurent de manière naturelle, c'est que Dieu ne m'a pas appelé, on dira que ce n'est pas la peine. En revanche, si ces hommes connaissent une mort inouïe, dans des conditions particulières, ils vont savoir que Dieu m'a envoyé. Chers frères, chers sœurs, quand Dieu travaille, Dieu n'est pas notre ami. Nous ne le voyons pas. C'est pourquoi on doit, dans la vie et dans la société, être le plus correct possible. On doit éviter de parler n'importe comment. Oui, telle situation est ceci, Dieu n'a rien fait, qu'est-ce que Dieu est où? Il faut éviter ce genre de phrases-là. Moïse dit, si c'est Dieu qui m'a établi, vous saurez qui il est ou qui je suis. Et quand Moïse a parlé, qu'est-ce qui s'est passé? Non. Dieu a agi. Dieu honore les paroles de ses vrais oints. Quand Moïse a parlé, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a agi. La terre a ouvert sa bouche et les a engloutis. Ce n'est pas tout. Un feu est descendu pour consumer les 250 qui étaient restés. Ma prière ce matin, c'est qu'en comprenant l'enseignement sur la loyauté ou au contraire sur la déloyauté, on puisse être correct dans ce que nous faisons. On peut faire des observations et des remarques de manière polie, de manière respectueuse, sans toucher à l'honneur de l'autorité, sans toucher à sa dignité, sans toucher à son autorité, sans remettre en cause son poste. Est-ce que Dieu peut nous aider ce matin? On va se faire une démo, s'il vous plaît. Ça concerne tout le monde, les enfants, à l'égard de leurs parents. Absolument important. Je commence d'ailleurs par là même. Et s'il y a des enfants ici qui sont venus avec leurs parents, ou avec leurs parents, en tout cas, je m'adresse à vous aussi. Il ne faut jamais s'amuser, même en plaisanterie, à dire quelque chose de déplacé sur son père ou sur sa mère. Même si c'est vrai. Même si c'est vrai, si ton père te cogne, c'est bon comme ça. Mais racontez ce qu'il fait. Mon père méchant, s'il apprend ça et qu'il n'est pas crédible, qu'il ouvre sa bouche et qu'il te maudit, c'est fini pour toi. C'est vrai aussi au niveau spirituel. C'est vrai au niveau de la société. On va prier ce matin pour que Dieu nous donne de ne pas être dans la logique des personnes déloyales plutôt, mais la logique de ceux qui suivent les pas et qui sont fidèles dans tout ce qu'ils font. Parce que si on est fidèle, Dieu manifeste à son égard, à notre égard, sa fidélité et nous propulse. Parce que ce que nous voulons avoir, c'est que sa grâce nous accompagne. Que Dieu nous bénisse ce matin. On va se tenir debout et on va prier. Le temps m'a manqué et j'étais obligé de raccourcir les choses. Mais bon, je pense qu'on a compris l'essentiel. On va prier ce matin le Seigneur afin qu'il nous aide à mettre en convient avec la Sainte Seine, qu'il nous aide à être des personnes qui évitent tout ce qui est déloyauté, la déloyauté dans ce que nous faisons. L'homme et la femme doivent être des personnes loyales. À l'église, on doit trouver des personnes loyales. Dans la société, on doit trouver des personnes loyales. Une personne qui a appris à être respectueuse, on sera respectueux à son égard. S'il a appris à travailler de manière correcte et digne, Dieu va la propulser. Je dis bien, Dieu va la propulser. Tu n'as pas besoin de faire des 50 jours de prière. Dieu va te propulser. Vous savez, si nous travaillons pour l'autre avec beaucoup d'honnêteté, des hommes et des femmes travailleront pour nous avec beaucoup d'honnêteté. Il faut dire Amen. Gloire à Dieu. Je veux qu'on lève les mains vers le ciel et qu'on prie le Seigneur. Qu'on dise à Dieu, inscris à nous la loyauté et la fidélité. Que nos cœurs évitent tout ce qui est déloyauté, tout ce qui est révolte, tout ce qui est excitation à la rébellion, excitation à l'indiscipline, excitation à des paroles grossière à l'égard de son mari ou de sa femme. C'est un effort qu'on doit faire sur nous-mêmes. Demandez au Seigneur de nous aider par son Esprit Saint. Dis au Seigneur, aide-moi par ton Esprit Saint, Seigneur, à ne pas être déloyal, à ne pas être grossier, à ne pas exposer la nudité de mon mari ou de mon père ou de ma mère, à ne jamais exposer des choses qui sont secrètes, qui nous aident, ou des choses qui peuvent porter atteinte à l'honneur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dire la vérité. Il faut dire la vérité. Il faut prévenir. Il faut avertir. Ça, il faut le faire. C'est vrai. Mais des choses qui sont liées à la dignité, à l'autorité, il faut éviter ça. Seigneur, aide-nous ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous ce matin, Seigneur. Oh, je prie que tu nous aides dans le nom de Jésus. Accorde-nous d'être des hommes disciplinés aussi dans ce que nous faisons, Seigneur. Oh, des fois, on manque de discipline. Et quand on échoue, on pense que c'est parce que Dieu ne veut pas que nous réussissions. On a besoin de discipline dans la gestion de nos ressources. On peut mal gérer son argent et pas avoir des problèmes et dire que c'est Dieu qui ne veut pas qu'on soit des personnes justes. Vous voyez, la discipline touche à beaucoup d'aspects. Quand Dieu nous aide ce matin à des hommes et des femmes disciplinés. Merci Seigneur parce que tu le fais.
Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent.